avancer dans ce chemin, c'est important de ne pas mépriser nos manques et de ne pas ignorer nos compétences. Et j'aimerais ce soir vous parler de ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil, c'est-à-dire des énergies qui accompagnent la pleine conscience, qui sont quelquefois là, quelquefois pas, et qui se développent par l'exercice de la méditation. Au début, ce que nous voyons essentiellement, ce sont les obstacles. C'est nouveau de s'arrêter. Et nous sommes tellement dans cette habitude de saisir ce qui est agréable et que nous aimons, et de rejeter ce qui est désagréable et que nous n'aimons pas, que tout à coup, cette ouverture à l'équanimité, à constater le réel dans l'instant, fait jaillir toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'énergies que nous avons toujours dans notre vie, mais que nous ne reconnaissons jamais. Parce que quand le corps a un peu mal, nous bougeons. Dans l'exercice de la méditation, quand le corps a un peu mal, on peut sentir comme on fait un tout petit mouvement avec le dos. Mais peu à peu, on arrête de faire ces tout petits mouvements. Quelque chose s'arrête. Et nous rencontrons ces obstacles parce que nous ne savons pas nous arrêter. Et c'est pareil avec la pensée, toute cette exploration que vous vivez à travers la pensée. C'est le même processus. Nous ne voyons pas les pensées lorsqu'elles sont nourrissantes, belles. Elles ne nous gênent pas tellement. Mais nous les voyons bien quand elles nous ennuient. Et dans votre partage tout à l'heure, certains d'entre vous, je le sentais, expérimentaient déjà ce que nous appelons les facteurs de l'éveil. Et il y en a 7, et celui qui est le chef, le centre, c'est la présence, Sati en pali, ou la pleine conscience, ce que nous développons depuis le premier moment où nous nous asseyons, la capacité de voir, de contempler. Et cette capacité s'affine. Au début, elle est obstruée par les concepts et peu à peu, elle s'affine. Et ce qui accompagne Sati, ce sont 3 aspects énergétisants et 3 aspects calmants. Et les 3 aspects énergétisants, c'est l'intérêt ou la joie gratuite, la joie pour l'expérience dans l'instant. Et il y a autant de joie et d'intérêt lorsque c'est désagréable que lorsque c'est agréable. Le deuxième, c'est l'énergie. La conscience a une qualité énergétique et alerte. C'est le contraire de l'opacité ou de la torpeur. Et le troisième, c'est l'investigation. Je reviendrai sur ces aspects. L'investigation qui n'est pas la pensée ordinaire. La pensée ordinaire est toujours au service du confort du moi. Le confort du moi qui retrouve ses pseudo-sécurités. L'investigation, c'est une exploration qui est liée à la libération, à quelque chose de plus profond dans la nature humaine. Et les 3 facteurs de calme, c'est d'abord le calme. Quand Marc partageait ce moment où tout d'un coup la pensée s'arrête, ok, je peux le voir et je le sais. Et ça n'a pas besoin d'être des moments de calme très longs, mais c'est important que nous commencions à les reconnaître et que nous puissions les nommer et les goûter. Ça, c'est le calme. Un moment où justement il n'y a pas cette expérience où le corps marche ici et où en fait je suis déjà là. Vous sentez comme c'est lourd quand le corps marche ici et que je suis déjà là. Et ça nous arrive sans cesse. C'est sans cesse l'expérience. C'est très fatigant. Et la concentration, c'est une unification du corps et de l'esprit. Dans la concentration, il y a l'abandon momentané du manque d'équanimité ou de la préférence. Et je peux rester sur un objet pendant longtemps. Je peux choisir. Et puis le dernier facteur de calme, c'est l'équanimité. C'est cette ouverture qui est liée en même temps à une qualité de cœur, c'est-à-dire qu'il y a un soin, quand nous sommes dans le j'aime, j'aime pas, c'est un amour très superficiel, très instinctif. Et quand nous sommes dans l'équanimité, c'est un amour pour la totalité. C'est un amour pour les choses telles qu'elles sont, plutôt que les choses telles que je les veux. C'est une grande différence. Alors je vais peut-être reprendre ces différents aspects. Qui accompagne ou non l'expérience de présence, ou la présence ici et maintenant, le fait d'être là. Et le premier, la joie ou l'intérêt. Cet intérêt est lié à l'habitude du corps-esprit de commencer à rester avec le bon objet de conscience. C'est-à-dire que je peux avoir de l'intérêt quand je suis libre de ce désir inconscient que je sais ce qui devrait être et que je peux m'ouvrir à ce qui est et laisser changer les choses. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est un intérêt qui fait « Ah, il y a ça !» et puis « Ah, il y a ça !» et ça change et « Ah !» Et le « Ah !» qui est un « Ah !» d'émerveillement, d'une certaine manière, n'est pas lié à la qualité de l'expérience. Je peux vraiment m'émerveiller quand vient l'aversion. « Waouh, c'est l'aversion !» Mais c'est sûr que si je saisis un objet qui n'est pas ce qui est prioritaire dans l'instant, cette qualité d'intérêt et de joie est comme sciée à la base. Si je veux être sur la respiration, absolument, alors qu'en fait l'expérience, c'est une expérience tout autre que je vis et que je ne le vois pas, il ne peut pas y avoir cet intérêt. Je me souviens dans une retraite, une longue retraite, j'étais vraiment dans cet intérêt, dans cette joie. Et puis, à un moment donné, ce qui est venu, c'est « Ah, ben, je vais aller me faire un thé. » Et puis, en général, ben voilà, « Ah, ben, j'ai envie d'aller me faire un thé. » Intérêt pour ça, mais aucune croyance dans la pensée. Après, ça passait à autre chose. Et puis, voilà que ça revenait. « Ah, ben, je vais aller me faire un thé. »« Ah, ben, disons, j'ai vraiment besoin d'un thé. »« Ah, ben, et puis ce thé. » Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, là, ça colle. » Et en regardant plus finement, c'est pas que j'avais envie d'un thé. C'est qu'en fait, je commençais à avoir un peu d'aversion pour l'exercice. Et comme j'avais pas vu l'aversion, j'étais passée directement au désir, alors ça restait. Et quand j'ai pu voir l'aversion, ah, aversion. Et après, il y a eu un papillon, et puis je ne vois pas autre chose. Donc, c'est subtil de pouvoir vraiment savoir ce que la pleine conscience doit contempler ici et maintenant. Et souvent, nous avons un objet qui n'est pas le bon objet de conscience. Et ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons, quand nous arrivons à sentir, ah oui, là je dois faire méta et c'est juste de faire méta. Ou là, j'ai laissé être la pensée, après j'ai dit non, ah ouais, c'était juste, c'était là, c'était... C'est cette joie, c'est cette qualité de... Et ça peut être très court, mais je peux l'expérimenter et le reconnaître. Mettre la conscience sur ces facteurs de l'éveil quand ils sont là. L'énergie vient quand ce n'est plus tellement moi qui décide de tout ce que je veux faire, mais je commence à employer le moi au service de la vérité. C'est-à-dire que je laisse faire un peu cette vérité dans ce corps et dans cet esprit. Et puis moi, je fais ma part, j'accompagne gentiment. Mais il n'y a plus ce besoin de contrôle perpétuel qui court-circuite l'énergie et qui fait que l'obstacle de l'opacité ou de la torpeur revient. Le côté alerte ou énergique de la pleine conscience est plus ou moins présent. Quelquefois, il est absent. Et je peux être là en constatant ce manque d'énergie. Le temps de présence est plus court. Ou la qualité de la présence est plus opaque. Et puis l'investigation. L'investigation, c'est quelque chose de délicat parce que nous aimons tellement penser à nous-mêmes. Nous pensons beaucoup à nous-mêmes, toujours, toute la journée. Je pense à moi. Et l'investigation, disons que lorsque vous commencez à vous demander pourquoi, ou bien comment ça se fait, il y a bien des chances que vous ne soyez plus dans la qualité d'investigation. Parce que la qualité d'investigation, elle ne peut pas être liée à une volonté de solutionner quelque chose. La qualité d'investigation, elle est plutôt liée à un questionnement, et puis éventuellement à une exploration intellectuelle courte, et après à un lâcher prise. Et la réponse, elle vient, elle émerge. Donc par exemple, de questionner si ça ne va pas, je médite, j'en ai marre, je vais partir, ok. Quelle est l'expérience juste maintenant? Est-ce qu'il y aurait un obstacle? Ça, c'est une qualité d'investigation. Ou si tout va bien, ça va bien. Quels sont les facteurs de l'éveil qui sont là, présents, juste maintenant? Ou si j'ai eu un problème avec mon patron, qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai senti? Et comment les choses se sont passées après coup? Quel a été le contact? L'investigation, vous pouvez être dans la qualité d'investigation quand vous prenez ce qu'on appelle les khandhas, les cinq khandhas, c'est ce dont nous sommes faits, pour qu'il y ait une expérience. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait un contact. Sur la base de ce contact, il y a un ressenti. Avec ce ressenti, une interprétation basée sur le passé. Et à partir de là, des intentions et des constructions. Et tout ça ne pourra pas avoir lieu sans la conscience. Ce qu'on appelle les khandhas, ce sont ces cinq aspects de la nature humaine qui doivent être présents pour qu'une expérience ait lieu. Et vous pouvez prendre n'importe quelle expérience qui vous est arrivée aujourd'hui ou qui vous arrive juste maintenant. Il y a un contact. Quand je parle, il y a le contact avec le son de ma voix et le contenu de ce que je partage. Ça crée des ressentis, plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables ou neutres, suivant les personnalités et suivant le passé de chacun d'entre vous. L'interprétation se fait en lien au passé. Et à partir de là, donc Panya, donc il y a le ressenti et la perception, je dirais, hein, le fait de nommer ce qui se passe. Et puis là-dessus, vous construisez. Et la richesse de ce qui se passe lorsque nous écoutons quelque chose, c'est incroyable. À quel point quelqu'un parle, mais chacun d'entre nous travaille. C'est beau. C'est ce qu'on appelle des constructions, ou les intentions, des formations mentales. Et nous pouvons reconnaître que ça ne peut avoir lieu que parce que nous sommes réveillés. La conscience est là. Si nous dormions, il n'y aurait pas ce travail qui se ferait. Et quel que soit le moment dans votre journée, ces 5 khandas sont en train de travailler. Et si vous êtes dans l'investigation, vous pouvez chaque fois faire ça. Quel était le contact? Ok, ressenti, perception, construction. Pas mes pensées, mais des pensées. C'est un lien de cause à effet. Et ça, c'est très libérateur, d'être dans une qualité d'investigation plutôt que dans cette attitude « c'est moi, à moi, le mien, toi, à toi, le tien ». Comment être libéré pour que moi, je me sorte la tête de l'eau, tant pis pour les autres, hein? Et souvent, c'est ça que nous faisons. L'investigation est souvent liée à ça. Sa faute, mais pas la mienne. Ou ma faute, et pas la sienne, suivant les personnalités. Dans les facteurs de calme, eh bien, il y a le calme. Et c'est important de le repérer, même s'il est court. Quelquefois, c'est au début de l'assise, quand le corps n'a pas encore du tout mal, et que nous venons d'une journée agitée, et que c'est un soulagement, j'ai ma soeur, plus rien à faire. Je me souviens dans les retraites, pendant une période de ma vie, quand mes enfants étaient petits, les 2 premiers jours, mais quelle jouissance! Juste de plus rien avoir à faire. De pouvoir obéir, on me faisait à manger, ça sonnait quand je devais me lever, ça sonnait quand je devais aller m'asseoir, ça sonnait quand je devais aller marcher. Oh, trop bon. Le calme. Et puis après, ben voilà, le travail commençait. Mais les 2 premiers jours, waouh. Et après, on vit l'enfer ou le paradis, selon. Donc de reconnaître ce bienfait de nous mettre en condition pour pouvoir arrêter. Si nous ne nous mettons jamais en condition de pouvoir arrêter, nous ne pouvons pas expérimenter le calme. Et quand ce calme est conscientisé, alors nous pouvons toucher à la concentration. La concentration, c'est un état. Dans le Vipassana, on parle de concentration d'accès, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer une concentration extrêmement profonde, où on peut rester pendant des jours ou des semaines. Hein. Il y a ces lamas tibétains qui sont dans des états d'absorption. Là, la concentration dans le Vipassana, on dit qu'elle est suffisante si je peux compter 21 respirations conscientes, sans partir, en étant là. La concentration, c'est essentiellement une capacité de pouvoir jouer avec soi-même. C'est-à-dire que quand je m'assieds, j'ai le choix. J'ai le choix de laisser être les pensées, de voir si elles sont lourdes, légères, du passé, du futur. Je laisse être les pensées. Je peux les compter, je peux... Ou je laisse être les sons. Et pas seulement les sons, mais le début, le milieu et la fin du son, et puis le silence. Les sons agréables, les sons désagréables. Ou bien je viens sur la respiration et je reste rien que là. Il n'y a que la respiration. Ou rien que le corps tout entier. Ou rien que le sens de la vue. Je vois les formes, les couleurs. Et quand la concentration est nécessaire, lorsque nous pratiquons la méditation et que nous avons un certain skill, comment on dit skill en anglais? Non, skill. Non, skill. Skillful, adroit, être adroit. Mais le verbe, le mot pour dire être adroit, skill, une compétence pour développer la sagesse. Quelque chose devient très clair, c'est quand j'ai besoin de concentration et quand pas. Et dans une retraite, le fait de développer la concentration permet vraiment d'ouvrir des poches inconscientes et de les mettre en pleine conscience. Par exemple, je me souviens dans une retraite que j'avais fait. Ah mince, maintenant je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Ah, peu importe, tant pis. Il y avait une émotion perturbatrice qui est née. Ah, c'était la vanité. La vanité, c'était merveilleux. J'avais jamais touché ça. Parce que c'était une retraite où on pouvait s'asseoir comme on voulait. Alors j'allais m'asseoir longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, ah mais tiens, quand tu t'assieds longtemps, sans ça, cette vanité, peut-être bien qu'il me regarde. Et c'était inconscient. Pendant longtemps, c'était inconscient. Et à un moment donné, j'ai senti que ça stagnait un peu, le travail stagnait. Et j'ai donné un bon coup de concentration, et tout à coup, il y a cette vanité qui est montée aux consciences. C'était beau. Donc, entre pleine conscience, où je suis simplement là, et que j'ai cet intérêt pour l'expérience, qui vient et qui passe, qui vient et qui passe, qui vient et qui passe, et la concentration, ce sont deux outils que nous employons beaucoup dans une retraite plus longue, mais que nous pouvons aussi employer quand nous devenons un peu habiles dans une heure de méditation, une demi-heure. Savoir développer la concentration. Et en gros, quand je pars trop dans le passé, dans le futur, c'est que je manque un peu de concentration. Et si vous ne savez pas, essayez de voir si vous arrivez à compter 21 respirations. Il n'y a pas besoin d'en compter 200. En compter 21. Et puis... Et ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune pensée, hein, mais ça veut dire que les pensées ne vous emmènent pas. Et puis l'équanimité, nous en avons déjà parlé avec les Brahmavihara, ces qualités du cœur. L'équanimité, au fond, c'est la non-contraction devant la souffrance, en moi et chez l'autre. Du moment qu'il n'y a plus cette contraction, à chaque fois que quelque chose n'est pas comme je le souhaite, le cœur peut être ouvert. Il peut être ouvert à la joie, quand la joie est là. Il peut être ouvert à la douleur, quand c'est la douleur. Et il reste dans cette qualité de soin. Il soigne l'expérience dans l'instant. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis soigne? C'est vraiment de le reconnaître pleinement. Et c'est possible d'être dans l'équanimité parce que nous avons d'une part appris à contempler le monde conditionné, ce qu'on appelle le monde des conditions, l'expérience dans l'instant. Nous avons contemplé encore et encore cette expérience. Et en même temps, nous nous sommes ancrés dans la présence juste, la présence unificatrice. Et au fond, l'équanimité peut être lorsque nous apprenons à mettre en priorité le fait d'être là. Être là devient prioritaire sur l'expérience. Et quand je suis au cœur du cyclone, enfin, le cœur du cyclone, il ne bouge pas. Donc, plutôt quand je suis prise dans le cyclone, ce que je sais quand l'équanimité est développée, c'est que c'est pas la peine que je cherche à ce que ce soit autrement que comme c'est. C'est forcément confus, ça peut pas être autrement. C'est forcément désagréable. Le cœur est forcément perturbé et tremblotant. Et le corps est forcément un peu mal à l'aise. Mais ça ne fait pas que je ne peux pas être là. Je suis complètement là avec. Et ça, c'est l'équanimité. Et l'équanimité demande au lâcher prise, ou plutôt au respect pour l'expérience conceptuelle de la confusion. Quelquefois, nous ne pouvons pas voir clair, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être clair. Je peux être absolument clairement dans la confusion. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis là, la présence est là. Elle ne m'abandonne pas sous prétexte que c'est confus. Oh, c'est confus, alors je ne peux pas être là. Typique. Alors je ne vais jamais pouvoir dépasser la confusion tant qu'il y a cette contraction devant la souffrance. L'équanimité, c'est la non-contraction devant toute souffrance, confusion inclus. Et dans l'exercice de la méditation, nous expérimentons l'équanimité lorsque nous luttons pour inclure la souffrance. Lorsque, avant de bouger la jambe, je la laisse être un moment, j'explore un peu comment c'est, je vais dedans, j'arrête de dire que ça fait mal, je me dis, ah, attends, voir, ça fait quoi si je vais dedans, puis que je me dis que c'est terriblement agréable. Ou que c'est juste une sensation plutôt qu'une douleur. Explorer tout ça. Je voulais vous parler des facteurs de l'éveil. Ça ne veut pas dire que vous allez maintenant vous tendre pour absolument pouvoir nommer tout ce que vous pouvez nommer des facteurs de l'éveil. Mais vous l'avez entendu, vous pouvez lâcher et peut-être que ça va venir. Tout d'un coup, ah mais tiens, ça c'est du calme. Attends, alors là je suis en train de faire quoi? Est-ce que c'est de l'investigation? Ou bien est-ce que je suis en train de vouloir sauver ma peau? Enfin, nous sauvons. Peut-être pas notre peau, mais notre être en étant dans l'investigation, ce qui est encore mieux. Et le meilleur moyen de pervertir les facteurs de l'éveil, c'est de s'y attacher. Quelquefois ils sont là, quelquefois pas. Et exactement au même titre que les obstacles, il y a l'intérêt. Ah ouais, c'est là. Ah bah c'est pas là. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir.